dessous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Peut-être vous en souvenez-vous. La semaine dernière, Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique, nous avait expliqué comment l'évolution du contexte économique avait permis que soit enfin entendue l'idéologie néolibérale. Cette idéologie, nous disait-il, avait été concoctée au sein d'officines destinées à contrecarrer l'idéologie keynésienne hégémonique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était les fameuses boîtes à pensée américaines Think Tank, paraît-il. Je vous brosse le tableau. Serge Halimi et moi-même sommes attablés au fond d'un café. Bruit de verre, de conversation, et c'est donc dans ce contexte quelque peu bruyant que je lui ai demandé comment on était passé d'un corps d'idées préparé dans les boîtes à pensée au rouleau compresseur libéral que l'on connaît actuellement.
Il y a un facteur qui est très important, c'est que les idées néolibérales, à partir des années 60, bénéficient d'un appui financier très important et très massif des entreprises. Les entreprises, les chefs d'entreprise, ont le sentiment d'être victimes de politiques économiques et sociales qui privilégient un peu trop à leur goût les syndicats. Et elles ont le sentiment qu'elles sont d'autant plus victimes de ces politiques qu'elles n'ont pas développé d'alternatives. Qu'elles n'ont pas, comme le dit l'un d'entre eux, pensé l'impensable. Il faudrait arriver à faire advenir l'impensable, c'est-à-dire le refoulement de l'État-providence que personne n'envisage dans les années 50. Comment faire que l'impensable devienne le pensé et la politique qui sera mise en œuvre? Eh bien, vous allez systématiquement financer des travaux de chercheurs, d'universitaires qui iront en quelque sorte dans un sens bien précis, avec une feuille de route déterminée à l'avance, qui se résumerait en quelques points, il faut casser les syndicats, il faut refouler l'État-providence, et il faut donner davantage de pouvoir aux chefs d'entreprise. Vous réunissez des chercheurs et vous leur dites, voilà, vos recherches, on sait ce que vous allez trouver, on est prêt à financer vos recherches avec l'argent dont vous aurez besoin pour que vous justifiez des politiques dont on sait déjà ce qu'elles seront. Donc vous allez avoir des tas d'universitaires qui vont avoir en quelque sorte table ouverte et études ouvertes aussi longtemps que nécessaire pour développer ces politiques. Alors que naturellement, en face, vous n'avez pas le même dispositif. Vous n'avez pas des gens qui d'une part savent ce qu'ils doivent trouver, parce qu'on le leur a indiqué, et qui disposent des moyens nécessaires pour développer des politiques qui justifieraient une intervention plus poussée de l'État. Et ça, je pense, c'est une réalité qui est assez importante. Il y a une volonté délibérée de la part des grosses entreprises, des gros chefs d'entreprise, de ce qu'on peut appeler d'ailleurs les gros capitalistes, de développer une demande pour des idées qui sont conformes à leurs intérêts.
Et ensuite, comment on est passé à ce moment-là de ces laboratoires, on pourrait dire qu'ils seraient universitaires, vers le public, vers le grand public?
Alors la vérité, c'est que ces laboratoires sont à la fois universitaires et plus qu'universitaires. Progressivement, ils vont incorporer un certain nombre d'essayistes ou de journalistes, et ils vont développer dans certains journaux des éditoriaux assez réguliers qui populariseront une partie de l'opinion avec des thèses néolibérales. Aux États-Unis, par exemple, un journal comme le Wall Street Journal, qui est quand même le quotidien le plus diffusé du pays et qui est très lu par tous les petits patrons, petits patrons au sens très large, puisque c'est un journal qui diffuse à près de 2 millions d'exemplaires, aura tous les jours un certain nombre de chroniques qui présenteront en quelque sorte le béaba de la pensée néolibérale. Et puis après, les chroniqueurs deviendront célèbres à travers les textes qu'ils écrivent dans le Wall Street Journal, se feront inviter dans des émissions de télévision où ils diffuseront les mêmes idées, participeront à des débats où ils diffuseront les mêmes idées, interrogeront les hommes politiques pour les soumettre à un certain nombre de questions orientées en fonction de ces idées, et progressivement, un certain nombre de conceptions qui apparaissaient complètement absurdes deviendront sinon le nouveau langage dominant, sinon le nouveau pensé autrefois impensé, en tout cas une expression récurrente dans la vie intellectuelle aux États-Unis et bien sûr aussi au Royaume-Uni, puisque c'est dans ces deux pays-là que ces idées commenceront à accéder à une certaine respectabilité.
Qui va passer ensuite par l'élection de Reagan d'un côté et Thatcher de l'autre.
Alors, disons que l'élection de Reagan et de Thatcher ne s'est pas forcément faite sur des thèmes aussi idéologiques et aussi intellectuels que les textes qui auraient été écrits par la Fondation du Mont Pèlerin ou par la Heritage Foundation aux États-Unis, etc. Cela dit, ils viennent au pouvoir en revendiquant une réduction du rôle de l'État. Et évidemment, pour revendiquer la réduction du rôle de l'État, le plus simple, c'est de pousser à une assimilation presque systématique entre État et impôts, disant donc vous payez trop d'impôts. À partir des années 70, il y a une certaine révolte fiscale des classes moyennes. Et utilisant cette révolte fiscale des classes moyennes, ils arrivent au pouvoir. Et après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils s'entourent de conseillers économiques acquis aux idées néolibérales qui auront pour volonté principale de les faire passer dans la réalité économique. Et qui les feront d'autant plus passer dans la réalité économique qu'à ce même moment, les syndicats et les forces de gauche seront, pour des raisons diverses selon les pays, affaiblis. Et donc, en mesure de fournir une opposition moins importante à ces politiques qui les nuisent et qui les combattent que le type d'opposition qu'on aurait pu imaginer 20 ans ou 30 ans plus tôt. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le cas des États-Unis comme dans le cas du Royaume-Uni, les principales batailles qu'engageront les nouveaux gouvernants, que ce soit de Reagan ou de Thatcher, seront presque aussitôt des batailles contre les syndicats et contre le syndicalisme, avec des mesures coercitives qui visent systématiquement les syndicats et les luttes qu'ils pourraient animer. Souvenons-nous qu'aux États-Unis, quelques mois après avoir été élu président, l'une des premières décisions que prendra Ronald Reagan, c'est de révoquer 10 500 contrôleurs aériens qui avaient commis le crime de s'être mis en grève et de les révoquer, c'est-à-dire que ces 10 500 personnes perdront leur emploi.
Amour de Louise Attaque, comme vous l'aurez probablement remarqué. Vous écoutez Des Souhaits des Hommes sur Aligre FM et nous sommes aujourd'hui avec Serge Halimi. On avait beaucoup parlé des USA, de l'Angleterre, mais en France, comment s'est fait la glissade de la gauche vers une sorte d'acceptation du libéralisme? C'est ce que j'ai demandé aux journalistes du Monde Diplomatique.
Alors, en France, la situation est un peu plus compliquée parce qu'effectivement, comme vous le suggérez, c'est surtout la gauche qui sera en quelque sorte l'institutrice du néolibéralisme, paradoxalement. Je dis paradoxalement, ce n'est pas un cas unique. Vous aurez exactement la même situation en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est un gouvernement de gauche, un gouvernement social-démocrate, qui mettra en œuvre les principales réformes néolibérales, les principales réformes donc transformant des services publics en marché et en entreprises privées, face même à une coalition de droite qui est plutôt réservée face à ces politiques. Donc la France n'est pas un cas unique. Mais ce qui se passe en France, c'est qu'en 1980, comme vous le savez, la gauche arrive au pouvoir dans un contexte idéologique qui, dans le monde occidental, est déjà plutôt un contexte néolibéral. Donc elle applique à rebours des idées dominantes du monde occidental, des politiques qui sont beaucoup plus keynésiennes encore que celles qui existaient du temps de Pompidou ou de Giscard d'Estaing, puisque dès que la gauche arrive au pouvoir, à un moment où dans la plupart des autres pays on privatise, elle va, elle, décider, à partir de 1981-82, de nationaliser un certain nombre de grandes entreprises. Le problème, c'est que cette politique de nationalisation et d'intervention massive de l'État semble ne pas réussir. Alors, il y a toutes sortes de débats sur est-ce qu'elle réussit, est-ce qu'elle ne réussit pas, est-ce que la perception de l'échec n'est pas elle-même induite par une montée fulgurante de l'idéologie néolibérale dans les classes dirigeantes et au sein du monde intellectuel, qui fait que dès qu'il y a une petite difficulté qu'ailleurs on aurait évacué en disant « bon, les choses sont difficiles, attendons », en France elle est présentée comme l'échec d'un mode de gestion socialiste ou social-démocrate ou interventionniste, mais toujours est-il que lorsque ces politiques d'intervention économique semblent ne pas réussir en 1982-1983, la gauche c'est-à-dire à ce moment-là essentiellement le Parti Socialiste, pour se maintenir au pouvoir, décide de donner un brutal coup de barre à droite, et au lieu d'être en quelque sorte le capitaine de politique interventionniste, va devenir le capitaine de politique de plus en plus néolibérale. Bon, évolution qui sera complétée lorsque Laurent Fabius deviendra Premier ministre en 1984 autour de cette seule volonté de moderniser et de rassembler. Et on sait que son rassemblement, ce sera surtout essayer d'attirer un électorat centriste ou un électorat de droite, et moderniser, ça voudra dire restructurer des secteurs économiques entiers, quitte à provoquer une montée brutale du chômage, puisque à l'époque, François Mitterrand donnera comme consigne à son Premier ministre d'être brutal lorsqu'il s'agit de conduire les restructurations. Donc en quelque sorte, par une espèce d'ironie de l'histoire, de paradoxe, les socialistes qui auront été à partir de 1981 les architectes d'un coup de barre à gauche brutal, à partir de 1983-84 deviendront les architectes d'un coup de barre à droite brutal. Ils pratiqueront donc une politique et puis son contraire. Et évidemment, lorsque vous avez un gouvernement de gauche qui pratique des politiques associées aux prescriptions de la droite, eh bien, vous répandez dans l'opinion le sentiment qu'il n'y a qu'une seule politique possible, puisque même la gauche, en quelque sorte, avale son chapeau et pratique des politiques contre les politiques mêmes contre lesquelles elle avait été élue lorsqu'elle arrive au pouvoir en 1980. Donc elle semble donner raison à ses adversaires, et lorsqu'elle perd les élections en 1986, ses adversaires de droite reviennent au pouvoir pour appliquer une politique qui sera encore plus libérale que la politique déjà très libérale des socialistes jusqu'en 1986. J'ajoute que, un peu comme aux États-Unis, à ce moment-là, une fois que l'inflexion politique aura été donnée par les forces de gauche et puis par les forces de droite, il y aura un accompagnement idéologique majeur, à la fois par une fondation, la Fondation Saint-Simon, qui jouera un peu le rôle des boîtes à idées de la droite américaine et de la droite britannique en France, et qui regroupera des gens comme Alain Minc, comme Laurent Geoffrin, comme François Furet, comme Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire des intellectuels qui tantôt sont catalogués à droite, tantôt sont catalogués à gauche, mais plutôt dans la gauche moderne, modérée, rocardienne, ce qu'on appelle la deuxième gauche. Et cette espèce de laboratoire confirmera dans l'opinion cette idée que finalement il n'y a qu'une seule politique possible, puisque les gens se regroupent pour faire le même type de recommandations aux dirigeants politiques. Et ces recommandations, qui viendront donc d'intellectuels et de journalistes essayistes, seront appuyées par un formidable battage médiatique. C'est l'exemple de l'émission Vive la crise en 1984, à laquelle est associé à la fois Yves Montand et Laurent Geoffrin, l'actuel directeur du Nouvel Observateur, qui a été l'un des grands artisans de cette pensée, enfin de l'adaptation de cette pensée néolibérale en France, même si maintenant il se revendique comme le critique de cette pensée néolibérale, parce que les gens changent, et parfois ils changent un peu trop vite pour qu'on arrive à suivre la rapidité de leurs évolutions. Donc vous aurez cette émission sur Vive la crise, présentée par Yves Montand, qui est un véritable bréviaire néolibéral, qui aurait pu être écrit par un penseur financé par Margaret Thatcher ou par Ronald Reagan. Et au même moment, sur TF1, donc c'est vraiment, là il s'agit de grosses télévisions, de gros appareils idéologiques, vous avez l'apparition de Bernard Tapie et de ses émissions à la gloire du capitalisme qui s'appelle Ambition, je crois. Il écrira un livre qui s'appellera Gagner, et progressera dans le pays cette thématique du patron qui gagne face aux syndicats archaïques, accrochés à leurs privilèges, etc., de la modernité contre les archaïsmes, la modernité étant, bien entendu, la modernité néolibérale à l'image des États-Unis.
Régiste de France Gall, comme vous l'aurez encore une fois remarqué, disque vraiment de circonstance, car le tableau n'était pas, vous l'avez peut-être remarqué, très très gai. Il fallait que j'essaie d'introduire une autre note d'espoir.
Justement, maintenant, on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de pensée unique, que justement, il n'y a pas d'alternative. En tous les cas, les médias le présentent quasiment tout le temps comme ça. Et la façon dont certains journalistes interrogent les candidats aux présidentielles est assez symptomatique dans la façon dont on discrédite de façon systématique toute pensée qui pourrait être haute au niveau économique. Est-ce qu'il y a la possibilité de penser un autre impensable, finalement, une alternative à ce qui semble être maintenant la pensée unique, comme dans le temps?
Bien sûr. La première chose qui nous donne un certain nombre d'espoir, c'est le rappel de l'histoire. Le rappel de ces moments où on nous disait il n'y a qu'une seule politique possible, et le souvenir du fait que 20 ans plus tard, cette politique-là avait disparu et avait été très largement remplacée par une autre qui était présentée comme impossible 20 ans plus tôt. L'autre chose, c'est que naturellement, ce qui a aidé ces boîtes à idées à développer une pensée perçue comme hétérodoxe au départ, c'est le fait qu'ils ont travaillé sans être intimidés en permanence par le consensus, par la doxa dominante. Ils se sont dit, bon, nous, on n'est pas là pour séduire tout le monde tout de suite. On est là pour développer un corps de doctrine, et lorsque ce corps de doctrine sera développé, on essaiera de le défendre, mais en attendant, on n'est pas obligé, jour après jour, de s'inspirer des sondages d'opinion. On va travailler un peu à l'écart du battage médiatique, et on va travailler à l'écart des partis politiques, parce que notre objectif, ça n'est pas de faire du lobbying dans un parti politique contre un autre parti politique, c'est de transformer les données de l'équation idéologique pour tout le monde. Ce qui fait que, quel que soit le parti au pouvoir, on aura créé un terreau idéologique tel qu'il sera obligé de reprendre nos idées, même si à l'origine, on imagine que nos idées ne sont pas celles qu'il aurait naturellement tendance à reprendre. C'est ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, où vous avez des coalitions de gauche qui se font en quelque sorte, qui se transforment en architectes de politique de droite. Parce qu'elles ont le sentiment, et puis parce qu'il y a aussi une dimension de classe sociale qui n'est pas négligeable, il s'agit en France avec le Parti Socialiste d'un parti de plus en plus embourgeoisé, qui représente de plus en plus les classes moyennes et les classes supérieures, donc qui a de moins en moins la volonté d'œuvrer au service de catégories populaires et de classes populaires, qui de toute façon votent de moins en moins socialistes, et en revanche ils ont tendance à vouloir favoriser ce qui devient leur nouvel électorat. Et il est évident qu'il y a un intérêt de classe, pour employer des formules qu'on pourrait juger archaïques, mais qui, à mon sens, rarement a été aussi pertinente, il y a un intérêt de classe à développer des politiques néolibérales qui favorisent toujours les revenus du capital et les revenus des détenteurs de fortune au détriment des revenus du travail et des salariés. Il faut se souvenir que, par exemple, entre 1983 et 1998, parce que là, il ne s'agit pas uniquement d'idées abstraites, entre 1983 et 1998, la répartition de la valeur ajoutée en France s'est infléchie en faveur du capital de 8,9% de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, l'ensemble des richesses produites en 1900, salariés en obtenaient 69% environ, et 15 ans plus tard, les salariés en obtenaient 59%. Donc ils avaient perdu 9% de la valeur ajoutée, qui avait très largement bénéficié, parce que ce qui a été perdu par les uns a naturellement été gagné par les autres, au revenu du capital. En année pleine, ça veut dire qu'il y a 700 milliards de francs par an qui ont été retirés au travail pour être versés au capital. Ce qui indique assez que ces idées-là ne sont pas uniquement des idées, mais qu'elles traduisent des réalités économiques, des réalités fiscales, des politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics qui favorisent certains au détriment de certains autres.
Voilà, c'était Des Sous et des Hommes. Comme à la fin de la première émission consacrée à Serge Halimi, je ne peux que vous renvoyer à son article publié en janvier 2002, Quand l'Amérique pensait l'impensable. Vous pouvez toujours aussi lire le petit livre de Cass Dixon dans la collection Raison d'agir, Les évangélistes du marché. Vous verrez, c'est édifiant. La semaine prochaine, nous écouterons Henri Guénaud, ancien commissaire au plan et ancien administrateur d'EDF, qui nous parlera de la privatisation rampante d'EDF notamment. À la semaine prochaine !